Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, le magazine bimensuel de Radio Rancière entièrement dédié à l'actualité du poème francophone. La Route Inconnue est soutenue par l'excellente revue papier des charges dirigée par Jacques Morin depuis plus de 40 ans et dont les principaux protagonistes, Jacques Mot en tête, nous régalent ici même, quinzaine après quinzaine, de leurs notes de lecture avisées. Vous retrouverez d'ailleurs en seconde partie d'émission, aux côtés de l'ami Jacques Morin, Georges Catalot, Louis Dubot et Jean-Claude Touzeille. Mais à présent, nous avons rendez-vous avec un poète exigeant, discret, rare, excellent. Il s'agit de Stéphane Bataillon, né à Montreuil en 1975, auteur de trois livres, « Où nos ombres s'épousent »,« Les terres rares » et « Contre la nuit », tous les trois publiés chez Bruno Doucet. Par ailleurs, Stéphane Bataillon dirige Gustave, un mensuel de poésie numérique, et depuis peu, Gustave Junior, il s'agit du premier journal gratuit de poésie pour enfants. Enfin, Stéphane est journaliste à La Croix l'Hebdo, où la poésie a droit de citer. Cela est suffisamment rare pour être signalé. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors dans une vingtaine de minutes, Cédric Merlan ouvrira pour nous un de vos livres, le dernier en date, Contre la nuit. D'ici là, j'aimerais vous poser quelques questions pour que les auditeurs de La Route Inconnue apprennent à connaître l'homme avant d'entendre le poète. C'est bien connu, on ne guérit pas de son enfance, et ma foi, c'est peut-être mieux comme ça. Je voudrais, Stéphane, que vous nous parliez de votre enfance. Est-ce que vous en avez gardé de nombreux souvenirs? Et si oui, quels souvenirs? Quel enfant étiez-vous? Est-ce que vous étiez un enfant lecteur, très tranquille, studieux, rêveur, ou plutôt à traîner dehors avec les copains?
Alors, j'étais plutôt un enfant lecteur, passionné de magazines, passionné de bandes dessinées. Des heures et des heures à lire, aussi bien Pif que Spirou que Mickey. J'ai gardé une grande nostalgie de mon enfance. Enfance plutôt très heureuse, avec des parents aimants qui m'ont toujours accompagné et poussé dans mes enthousiasmes souvent changeants. Donc, je change souvent de passion, j'aime explorer des domaines et puis laisser tomber, passer à autre chose, ce qui me donne une culture un peu comme ça en saut de puce, mais j'aime finalement me plonger dans un univers, en ressortir et aujourd'hui souvent en faire des poèmes d'ailleurs.
Ouais. Quel caractère aviez-vous à l'époque? Étiez-vous, comme disait Cadou, plus rieur que Mossad?
J'ai toujours été plutôt optimiste,
ouais.
Plutôt heureux. Un peu solitaire, j'aimais bien, donc depuis que j'ai 10 ans, je fais des fanzines, des journaux, donc je passais mes nuits à inventer des numéros 1, des nouvelles formules, tout ça. C'est pas un hasard si je suis devenu journaliste.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Ouais. Depuis mes 7 ans, je voulais d'ailleurs travailler là où je travaille, c'est-à-dire à Bayer Press. C'est un peu mon rêve d'enfance, que de travailler à Astrapi. Donc j'essaye de conserver à travers la poésie cet état d'enfance, cette part d'enfance, absolument pas régressive, enfin j'espère, mais plutôt cette joie de l'enfance, d'émerveillement, de contemplation, qui ne m'a pas vraiment quitté, en fait, je pense. J'ai cette chance-là. Je suis toujours resté avec des moments durs de l'existence, mais j'ai toujours essayé de rester ouvert à ce qui arrivait.
Oui. Parlons des livres à présent. Stéphane, passer le cap de Pif Gadget, est-ce qu'il y avait des livres à la maison? Est-ce qu'il y avait une belle bibliothèque?
Il y a énormément de livres à la maison. c'est presque un problème. Hein. Donc j'ai des bibliothèques tout autour de moi. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de... toujours de la bande dessinée, beaucoup. Et bien sûr de la poésie. Chose qui est arrivée assez tard, parce que je n'étais pas particulièrement lecteur de poésie.
Oui.
J'ai plutôt commencé à écrire de la poésie réellement en 2007. Je ne connaissais pas grand-chose, en fait. J'ai vraiment écrit... J'avais quand même Guy Vic, que j'avais découvert, qui était vraiment un poète qui m'a beaucoup marqué.
Oui.
Mais voilà, l'écriture est venue avant la lecture,
oui.
dans ce domaine.
Alors, comment se fait-il que vous soyez devenu poète à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a eu dans votre enfance un événement qui expliquerait la chose ou sinon un événement, un climat, une géographie intime dans laquelle votre aventure poétique trouverait sa source?
Alors, y a un événement fondateur qui n'est pas de l'enfance, qui est de mon âge adulte, qui est le hélas décès de ma première femme d'une maladie quand j'avais 30 ans. Et c'est suite à ce décès, à ce deuil, que j'ai commencé à écrire sans savoir trop où j'allais, sans savoir même que cette écriture-là s'appellerait poésie. Ça s'est déclenché. Je ne sais pas comment, mais j'ai commencé à écrire de plus en plus, une écriture qui n'avait rien à voir avec mon métier de journaliste, et qui s'est structurée, qui d'un matériau brut d'émotions, petit à petit, a commencé à créer une tension, a commencé à créer une envie de jouer avec les mots, une envie de malaxer la matière et de créer quelque chose, d'autre qui est le poème pour moi.
Oui, parce que finalement, vous auriez pu raconter ce qui venait de vous arriver dans la langue ordinaire, dans la prose, mais finalement, c'est la, si j'ose dire, la poésie qui a pris le dessus sur le langage ordinaire.
Oui, et aujourd'hui encore, je vois bien autour de moi que voilà, il faut écrire des romans en France, en littérature. Je n'arrive pas à écrire autre chose que de la poésie. C'est pas du tout une contrainte, hein, mais j'essaie vraiment. J'ai fait plusieurs tentatives et en fait, j'ai l'impression que la poésie, en tout cas pour moi, est le moyen d'usage de la langue le plus direct pour raconter ce que j'ai envie de raconter et creuser en moi ce que j'ai envie de creuser et le transmettre.
Alors, votre premier acte fondateur, si j'ose dire, date de 2008, lorsque vous avez dirigé pour Segers l'édition d'un livre consacré à Eugène Guilvic. Alors, je présume que ce n'est pas par hasard que ce poète a compté pour vous. Dans quelle mesure vous a-t-il sinon influencé, du moins inspiré?
Alors, de plein de manières différentes, effectivement. Donc, pour la petite histoire, en fait, ce projet m'a été proposé par Bruno Doucet, qui travaillait à l'époque chez Seger, que j'avais rencontré sur un salon au marché de la poésie, justement parce que je cherchais le fameux poète d'aujourd'hui de Guilvic, qui était épuisé et était sur le stand des éditions Seger. On s'est rencontrés, on a parlé, on a bien accroché. Il m'a demandé de lui envoyer mes poèmes qu'il a trouvé, qu'il voulait éditer dès qu'il les a lus, en me disant qu'il y avait encore beaucoup de travail, bien sûr, mais cette envie d'être mon éditeur. Et en attendant, en fait, il m'a proposé ce travail-là, une anthologie de la poésie française contemporaine qu'on a fait ensemble, auquel je connaissais aucun poète à part François Cheng et Henri Bochot. C'était un peu étonnant pour moi de découvrir un univers. Et ce projet de sélectionner parmi les manuscrits de Guilvic des poèmes sur l'enfance. Et donc Guilvic m'a beaucoup impressionné et influencé par ce. La première fois que j'ai lu Guilvic, c'était Possible le futur. Je me souviens encore du moment où je l'ai lu. Ça a été un choc. Je me suis dit, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un autre rapport à la langue, enfin, quelque chose qui me touchait profondément dans les motifs, dans les éléments qu'il utilise, dans la brièveté aussi. Donc j'ai commencé à lire tout Guilvic. Et c'est vraiment une écriture qui m'inspire. Pour essayer de s'en détacher un peu aussi. Je pense que voilà, j'ai toujours conscience d'essayer de trouver mon propre style. Et cette petite anthologie-là de poésie pour enfants m'a beaucoup aidé parce que j'avais 300 pages de manuscrits avec des choses qui étaient très très drôles, très bien, et d'autres qui étaient plutôt moyennes et d'autres complètement raturées. Et ça m'a beaucoup apaisé dans je commençais à ce moment-là à écrire vraiment. En se disant, ah non, c'est pas assez bien, c'est bien. Je me suis dit, bon, il faut écrire, et on fera le tri après, et on travaillera après. Et effectivement, il y a tout un travail qui est pour moi le plus long, qui n'est pas d'écrire le poème, qui vient assez spontanément, mais qui est de travailler, de réduire, de supprimer, Et ça peut prendre beaucoup de temps dans l'établissement d'un recueil. Et ça m'a beaucoup marqué dans cette expérience-là.
Un bourgeon a éclos d'une branche laissée pour morte. Cela est suffisant pour dresser le domaine. Écrivez-vous magnifiquement, page 51 de votre dernier livre, Contre la nuit. Ce domaine m'a évidemment fait penser au livre éponyme d'Eugène Guilvic, Du domaine. Y a-t-il ici le moindre rapport entre vous deux, entre les deux domaines?
Je pense qu'il y a le plus grand rapport entre ces deux domaines. Je ne suis pas sûr d'avoir tout de suite. C'est bizarre. Et effectivement, là, par exemple, la reprise d'une sorte de lyrisme, je dirais presque mystique. Hein. Bon, Guilvic n'était pas comme ça, mais il y a vraiment ce rapport à la transcendance dans les éléments, cette imposition aussi de soi, de son identité. Qui effectivement est commune et se joue aussi, et peut-être c'est moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, dans des formes courtes, avec des mots simples, avec des mots du quotidien. C'est-à-dire arriver à sublimer notre expérience humaine dans des formes assez humbles
Oui.
et qui tiennent un peu dans le temps. Et c'est ce qui m'intéresse dans le travail poétique, c'est d'essayer de ne pas aller au-delà de la langue qui sert à demander du pain, qui sert à échanger tous les jours.
Oui.
Et avec ces mêmes mots, en faire quelque chose qui soit un art. J'ai essayé la semaine dernière chez une amie un tour de potier. J'avais jamais testé ce contact-là, cette terre qui résiste, qui entraîne la main. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de parallèles à faire entre ça et la poésie.
Alors, Eugène Guilvic disait souvent à propos de la poésie que donc écrire un poème, c'est faire du fil de fer avec de la ficelle, c'est-à-dire avec la ficelle du langage ordinaire, faire le fil de fer du poème. Est-ce que ça vous parle?
Tout à fait, j'aime bien cette idée-là de faire tenir la langue légèrement.
Oui.
Mais ça prend. Et c'est cette légèreté, cette brièveté, au final, cette sincérité du poème, comment j'essaye de le préserver. Et quand ça n'arrive pas, je l'élimine, le poème. Quand le poème sort et qu'il n'est pas sincère ou que c'est un peu fabriqué, je le mets de côté ensuite. Mais je pense que c'est cette légèreté, cette sincérité qui permet d'aller vers le lecteur, d'aller vers le de le toucher au cœur aussi.
J'aimerais qu'on parle à présent de votre dernier ouvrage, Stéphane Bataillon, un ouvrage intitulé Contre la nuit. C'est un titre que l'on peut entendre de deux façons. Primo, au sens de appuyer à la nuit, ou deuxio, pour contrer la nuit, pour lui planter dans le ventre la petite lampe de poche du poème. Alors, des deux sens, quel est le bon? Est-ce qu'il y en a un troisième, peut-être?
C'est un peu les deux, c'est un peu cette multiplicité de nos expériences qui est à la fois parfois tournée vers l'extérieur et on essaye, soit on est happé par cet extérieur. Alors là, dans ce recueil, je parle beaucoup des nouvelles technologies,
Oui.
de la connexion, de la surveillance et de l'étalement, de la transparence comme ça qui est imposée. Donc soit on est happé, soit on essaye de résister à ce monde, soit comme dans la nuit, quand on est un peu seul avec les bruits de la nature, on essaye de rentrer en soi avec la chaleur d'un corps à côté de nous, avec l'amitié, l'amour de sa femme, de son fils. Voilà. Et ça aussi, ce ne sont pas deux vies différentes, c'est la même vie. Et c'est ces deux manières de lutter avec ce sombre qui contient la lumière.
Alors, la beauté, notamment la beauté du monde naturel, dans ses plus humbles manifestations, a droit de cité dans votre poésie. Néanmoins, vous ne manquez pas de nous en dévoiler les ambiguïtés. Je vous lis là. Si mes anges en représentation, nous sortons ravis, les vers de terre crient au scandale. Alors, c'est dit dans un sourire, mais tout de même, c'est dit.
Oui, c'est ça. J'essaye de. Ça correspond toujours à des moments vécus. Donc, vraiment, ça s'est passé. Là, j'étais avec mon fils et on a observé cette scène-là. Effectivement, avec un peu raconté avec un peu d'humour, Mais oui, ça peut être aussi une allégorie du monde dans lequel on vit et avec lesquels on n'est pas, et moi le premier, on n'est pas tout le temps sur cette question de la représentation, de la construction d'une image sociale qui finalement, quand on est face à un obstacle, alors ça peut être un deuil, ça peut être la fin d'un emploi, je parle aussi de l'entreprise dans le recueil. On voit bien que cette image-là s'effrite très vite. Donc voilà, là aussi, alors le poème permet de revenir aussi pour moi à quelque chose une sûreté, une assurance, si tant est qu'il puisse y en avoir dans ce monde, mais comme un refuge un peu, mais un refuge qui irait vers l'autre, qui ne se recroquevillerait pas. Donc, qui est là pour avant tout être dit, lu, reçu.
Oui, tout à
C'est
fait.
ça qui m'intéresse en fait. Voilà, j'écris vraiment des poèmes pour moi, mais ensuite, c'est leur vie propre qui fait qu'il y a un échange, il y a des choses intéressantes qui se.
Alors, une partie de votre livre est sinon consacrée, du moins s'adresse à votre enfant. On sent vraiment qu'il existe entre vous une tendre complicité, j'ose dire même une poignante complicité. Je voulais lire ce poème de la page 35. Lundi, en allant à l'école, tu voulais monter sur un éléphant. Pas d'éléphant sur le chemin de l'école. Alors tes lèvres qui tremblent et tes yeux qui s'embuent. Et puis un doigt pointé. Il est là. Mais oui, il est là, l'éléphant. Il s'appelle Yunga. Nous grimpons sur sa trompe et rentrons dans la classe, majestueuse et vivant.
C'est là où mon enfant, mon fils m'apprend. Et cette dose de merveilleux, j'aime bien les contes, j'aime beaucoup lire des contes. Cette dose de fantastique dans le quotidien, mais qui n'est pas un fantastique qui fait peur ou qui est angoissant. J'allais vous dire que la scène s'est réellement passée, mais c'est un peu vrai, la scène s'est réellement passée. On a vraiment mimé cet éléphant et on s'est amusé, on a rigolé à courir dans l'école. Voilà. Et je le note après. Donc j'essaye. Pour moi, c'est un peu comme une photographie, le poème. C'est-à-dire que voilà, j'essaye de noter ces émotions qui me semblent sur l'instant, sans les produire ou sans vouloir les produire pour le poème, hein, ce qui serait un risque, mais essayer de les saisir comme ça. Et ce merveilleux retranscrit qui pourrait apparaître un peu décalé, un peu. Voilà. Pas ici, mais par exemple, quand je parle du deuil, je n'hésite pas à mettre aussi la présence de fées, des sorcières, des figures comme ça de l'enfance, mais qui ne sont pas tant pour moi des figures de l'enfance que de cet état d'enfance dont je vous parlais et qui me semble important de conserver.
Allez, je vous cite encore. Tu es en cours élémentaire, à distance la plus courte entre les mots et les éléments qu'ils désignent, muscle, lave, mousse, verbe, fourmi, interrogative, pigeon. Tu as de la chance. Puisse la vie te laisser cheminer toujours à cette latitude. Je me disais que cette latitude, c'est aussi celle du poète, non?
Oui, je pense vraiment que avoir ce goût de s'arrêter sur notre langue, de goûter les mots, de. Alors les enfants le font très bien. Les enfants le font très bien. Je pense que moi je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu pendant très longtemps puisque enfin, je me suis mis à cette écriture à 30 ans. Et je peux pas dire qu'avant c'était vraiment ça. Je trouve que c'est tout simplement un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et oui, c'est important, c'est la nature, bien sûr, c'est ce qui existe, mais c'est aussi le simple fait de dire les mots. D'ailleurs, quand les enfants disent des gros mots, c'est très marrant, parce que on sent l'excitation, la joie de pouvoir dire un gros mot, et je trouve que là-dedans, il y a aussi quelque chose comme ça de cette magie de la langue, en fait.
Alors, une dernière chose avant de céder la place à Cédric Merlon qui va nous lire des passages de votre ouvrage. Vous expérimentez depuis à peu près une vingtaine d'années la poésie dans le monde numérique. Je voudrais que vous nous parliez de cet aspect de votre travail parce que vous percevez fort bien les dangers du numérique, des réseaux sociaux qui nous jettent en pâture aux algorithmes et qui finalement drainent plus de boue que d'or. Alors, est-ce que vous faites finalement de la résistance dans l'espace numérique ?
Alors, j'aimerais bien vous dire oui, mais la réalité est que c'est moins militant que ça. Je me pose ces questions-là, effectivement, de cette emprise du numérique dans nos vies, de cette importance de plus en plus grande qu'il a. Mais je suis d'un autre côté très attiré. Alors là, comme un enfant, j'aime bien tester les choses. J'aime bien aller voir ce que c'est, quitte à critiquer ensuite. Là, par exemple, j'essaye les NFT. Donc j'essaye de créer des poèmes audio vendus en crypto-monnaie, moins pour espérer devenir millionnaire, hein, que pour tester un peu, pour essayer de comprendre concrètement ce que tout ça veut dire. J'aime bien aller dans des espaces, pas forcément y rester. Par exemple, j'ai été voir ce qu'était TikTok, ce réseau social très utilisé chez les plus jeunes, collégiens. Vraiment. Bon, ça m'a vraiment pas plu du tout. Mais j'ai quand même essayé de faire ouais. quelque chose. Voilà. Tester un peu ce monde qui arrive, ces nouveautés, et essayer d'insuffler un peu de poésie. Et ça apporte toujours quelque chose. Ça apporte toujours quelque chose à son poème, d'aller se frotter comme ça à d'autres réalités. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Stéphane Bataillon. J'invite les auditeurs et auditrices de La Route Inconnue à se procurer vos ouvrages. Ils et elles découvriront un auteur précieux et rare. Ce n'est pas Cédric Merlan qui me contredira, car je crois que lui aussi a beaucoup aimé « Contre la nuit » paru chez Bruno Doucet.
Je regarde l'arbre de ma fenêtre. L'arbre de ma fenêtre déborde sur ma rue. Il est beau, l'arbre de ma fenêtre qui déborde sur ma rue. Demain, je le quitterai, l'arbre de ma fenêtre qui déborde sur ma rue. Je quitterai ma fenêtre, je quitterai ma rue. Je déposerai les clés dans le creux de son tronc pour qu'il déborde la ville, pour qu'il déborde les yeux de ceux qui regarderont l'arbre de leur fenêtre. J'attends les déménageurs. J'attends qu'ils entrent, qu'ils prennent, qu'ils soulèvent tout ce qui est là. J'attends qu'ils transportent, qu'ils déchargent, qu'ils déposent tout là-bas. Tout ça avec moi. La maison est encore vide. Je m'approche du rebord de la fenêtre. Je décolle les joints usés pour déceler ce lieu, vaincre ce qui le retient. Je me dis que quelque chose se perd de toute façon, une histoire dont je ne sais rien, qui n'a été inscrite sur aucun compromis de vente, sur aucun plan du cadastre, sur aucun diagnostic. Quel champ, de quelle lignée remontent des rainures ? J'installe le réfrigérateur. Je l'ouvre. De la fumée en sort, froide. D'un froid dont ce réfrigérateur, vieux, presque un ami n'a plus l'habitude. J'ai peur. Ça déferle. Tu me dis que ce n'est rien, que c'est normal. Tu es plus calme que moi. Je vois cette brume qui s'évapore, qui prend sans autre indice possession de l'espace, qui s'immisce, sans odeur, beauté, froide. Verre après verre, on s'invente un cosmos qui ne convainc personne, juste avant le Big Bang. Se raconter nos drames d'une voix qui s'apaise. Laisser assez d'espace pour remplir nos silences, pour à peine s'effleurer en rapprochant nos peaux, s'endormir convaincu que cela vaut la peine. Verse la poudre d'or à l'endroit de tes failles, elles se patineront d'un éclat d'incertain. Revendique l'exil qui trace cette terre faite d'écume et de vent, ils te jalouseront tous d'établir l'horizon. Ce sera ton charisme. J'ai l'idée d'un poème qui changerait d'abord du jour qui commence, qui te ferait sentir le rayon de lumière frappant la feuille tombée, qui te rappellerait d'une suspension de l'air la beauté qui se cache dans ce tumulte-là. Je ne sais pas le nom des fleurs dont tu me demandes le nom. Je n'ai pas dû le demander, personne n'a dû pouvoir répondre. Je ne sais pas le nom des fleurs dont tu me demandes le nom. Alors les apprendre avec toi sur ce chemin bordé de fleurs. D'accord, on se transformera en licorne, en dragon, en terrible sorcière. D'accord, on refera le monde, avant de leur faire croire que c'était pour de faux. On cherche tous un lieu où suspendre la fuite, où reprendre son souffle, où se cacher des autres pour enfin les aimer. Notre légende se bâtit autour d'un seul fait d'armes. Notre histoire distincte s'écrit à sa lumière, jusqu'à la forme fixe, jusqu'à pouvoir gagner l'inscription dans le marbre d'une sorte d'éternité. J'admire cette lumière depuis trop de paroles. Le soleil se lève, le soleil se couche, les autres aussi se battent pour envoler l'éclat. Il s'arrête devant moi. Je ne l'ai pas entendu venir. Il me dit qu'il est sage et que, là d'où il vient, certains l'appellent roi. Dans la poche de ma veste, je serre mon couteau emporté par prudence. Il me dit que nous sommes sur un passage, qu'il y a d'autres passages ici, au même endroit, que nous ne voyons pas. Pas à cause de la nuit, mais parce que nous en sommes passagers. Qu'il nous transporte alors que nous pensons les emprunter, que tout cela n'a strictement aucune importance. Aucun souvenir de ce qui est ancien, aucun souvenir de qui arrivera chez ceux qui prendront la suite. La nuit n'est pas troublée, et mon poing se desserre. Il se remet en marche en me souhaitant bonne route. Nous nous croisons. Je commence à sentir l'odeur de la terre. C'est une nuit de pleine lune. Je repense au hibou au bec ensanglanté. Une image de la guerre parvenue de mes rêves. Des arbres se dressent que j'essaie de nommer. Je n'ai jamais été vraiment engagé. Notre génération n'a pas eu de cause à défendre qui mettait en péril. Pas encore, peut-être pas. Je ne sens plus le vent. A-t-il suivi l'homme? Quel âge avait-il cet homme, ce vent? En mon cœur, je résolus de m'enivrer. Il y a un temps pour tout, un temps pour engloutir et se laisser tomber, un temps pour observer le vide de l'absence, un temps pour rebondir d'une respiration, pas toujours dans cet ordre. Tout autour, on construit des châteaux, de sable, de cartes, de mots. On joue à conquérir chaque lien de dépendance pour se positionner. On fait l'amour, on tue le père, d'une dernière bouffée d'oxygène ou de sang. Ça ne marche pas toujours. Puis on teste la toile jusqu'à se libérer pour aller vers son risque. Il ne devait pas être commode René Char au son de sa voix. une branche vient de craquer. On a tous une blessure. Elle ne date pas d'hier. Peut-être qu'elle ne s'inscrit pas depuis nous, que ce n'est pas notre chair qui a connu le froid d'une arme, le choc d'un combat, la violence d'un mot, mais que nous la portons, héritage tapis en attente du moment, comme ces assurances-vie sans bénéficiaire qui dorment en l'attendant. J'ai amassé, je suis devenu grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi. J'ai perdu mon chemin, bifurque par hasard. L'imprévu d'une vie ne se résout jamais dans les lignes que l'on trace. Elle rôde tout autour. On a parqué les loups aux frontières des vieux contes et inventé des monstres encore bien plus terribles pour distraire l'angoisse. Avec des sortilèges, des puissances nocives et des jugements derniers. Mais il n'y a pas de Dieu. Seul un ruisseau d'eau claire qui se teinte de nous. Qui observe le vent ne sèmera pas. Qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Je me bats contre une ombre. Je ne sais plus très bien sur qui j'avais parié. Le nombre de livres que l'on pourrait écrire est sans limite. Laisser ces mots en jachère pour qu'ils reprennent des forces et s'adaptent à la terre qui vient d'être changée, qu'ils puissent nous étonner par une vitalité dont nous sommes incapables, d'une respiration, d'une rencontre nouvelle, reprendre le chemin de l'infime aventure qui pousse notre épopée. Écrire à la routine, ces jours un peu pareils, ces moments répétés qui n'auront droit ni à une photo, ni à un poème, ni à se changer en souvenir, sans la moindre chance de remonter au jour pour témoigner. Les paroles recueillies sont comme des clous plantés. Chercher les manières d'écrire juste, écrire sur le bruit de la chasse d'eau, sur l'odeur qui s'échappe des poubelles, sur le grincement concerté des volets électriques. Écrire le rituel du réveil en trois temps, la poussière qui s'amoncelle sur les marches de l'escalier, écrire neutre pour faire venir le monde. C'était des poèmes de Stéphane Bataillon que l'on peut retrouver dans le recueil « Contre la nuit » paru aux éditions Bruno Doucet.
N'hésitez surtout pas à acheter des livres. C'est important de lire les poètes. Et à ce livre de Stéphane Bataillon, « Contre la nuit » paru chez Bruno Doucet, vous pourrez ajouter eh bien, ceux que vont nous conseiller nos chroniqueurs à qui la seconde partie de l'émission La Route Inconnue est toujours consacrée. Tout d'abord, la revue de poésie, c'est important, la revue. Eh bien, celle du mois nous est présentée par notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la Revue des Charges.
Revue du mois, audio, numéro 52. Cette fois-ci, donc, c'est ARPA, la revue ARPA numéro 135. Cela faisait lurette que je n'avais parlé de la revue ARPA depuis octobre 2006, si j'en crois mes tablettes. La revue a toujours sa forme oblongue et sa présentation assez sobre, ce qui fait qu'on la reconnaît à tous les coups. Née en 1976, elle atteint son numéro 100 en 2011. Je disais dans ma chronique à l'époque, qui concernait le numéro 89, qu'en plus de deux décennies communes, nous ne nous étions guère croisés. Une bonne quinzaine d'années plus tard, force est de constater que ça n'a guère évolué. Ce numéro 135 est un numéro ordinaire, je veux dire non thématique, avec une file d'une vingtaine d'auteurs à qui sont consacrées deux, trois ou quatre pages. Philippe Maty en tête, on reconnaît son doux lyrisme. Les oiseaux s'envoleront des feuillages comme s'ils jaillissaient de tes mains. Il évoque le jardin avec pivoines et roses. Joseph Oman Krause parlera à la suite de Dahlia et de Tulipe, écoliers cherchant le ciel avec une longue vue. Philippe Maty recommence par l'adjectif confiné son texte. Laurence Lépine parle de la recluse la plus aimante. Puis le roumain Raoul Sébastien Baz se prend pour le héros du film dont il est à la fois le spectateur et termine un rêve par cette comparaison. Tel un nouveau-né endormi et a disparu dans le miroir ovale de l'armoire. Ce qui fait écho à Marie Allois et à ses deux vers à rien abscons, Nous savons qui nous a enfantés, nous ne savons le mourir. Calou Semain interroge, mais toi, es-tu sensible de clairière pour clore avec les noms sur la première de couverture. Ensuite, Michel Reynaud intéresse par ses déplacements de centre d'intérêt. Quand la nuit me tutoie, ou bien j'écoute mes pas qui s'éloignent dans l'obscurité qui m'envahit, ou encore, parfois je neige et je fonds, ou enfin, parlant d'un cheval, j'écoute le martèlement de ses sabots pour apprendre ce qu'il veut. Benoît Vermander évoque Shanghai. Pierre-Antoine Navarette parle d'une âme, ni montgolfière, ni cerf-volant. Colette Thévenet revient, sans la lumière des pétunias. Irène Duboff, j'habite par l'intermittence des mots incandescents et noirs. Jean-Pierre Farine, neige, nudité absolue, l'os du réel, squelette blanchi des arbres dans leurs marches pétrifiées. Deux lectures de recueil par François Gravelines et Jean-Pierre Boulic, puis la chronique « Mes préférences » par le maître de maison, Gérard Beauchelier. Autre rubrique, « Le fil du temps », avec Marie-Claude Bourgeon. « Je serai ta mémoire, sourde aux fables de ta colère, tissant une histoire qui ne trouvera pas ses mots. » Enfin, Jacques Robinet, avec sa balade pour l'hôpital Cochin à Paris, « À force de souffrir, on fait semblant de ne rien sentir. » Le numéro, 12,50 €. L'abonnement, 4 numéros, 42 €. Adresse abonnement à l'ordre d'ARPA, François Gravelines, 8 boulevard de la République, 63-200 Rion. Manuscrits, livres et revues, Gérard Beauchelier, 44 rue Morel-Ladeuil, 63 000 Clermont-Ferrand. À la prochaine fois.
Et voilà, nous retrouverons Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges, le mois prochain pour une nouvelle revue des revues audio. À présent, nous accueillons Georges Catalot, poète, lui aussi bien évidemment, pilier de la revue des charges, lui aussi mémoire vivante de la poésie, qui va nous proposer sa chronique « Poète présent et poète absent ».
Bonjour à toutes et à tous. Georges Catalot pour présenter le numéro 8 de Poète absent et Poète présent avec une parenthèse de citation sur le poète. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. René Char. Pour ouvrir donc aujourd'hui un poète absent, Yves 1926 2006, et Cécile Guivarch, poète présente, née en 1976. Yverté. D'une insatiable curiosité, Yverté avait abordé avec bonheur et réussite presque tous les genres littéraires. Son œuvre, riche d'une cinquantaine de titres, se compose de romans, de contes, de pièces de théâtre et de recueils de poèmes. Même si certains de ses livres ont paru chez des éditeurs renommés comme Gallimard, Le Seuil, Milan ou Magnard, il savait demeurer fidèle à de modestes enseignes comme il le fit avec les éditions Rougerie. S'il ne fallait retenir qu'un seul mot pour qualifier son œuvre, ce serait celui de résistance. Résistance à la vulgarité et à la barbarie. Résistance aux habitudes et au conformisme. Ouvert à la fois à la tradition et au modernisme, on peut rappeler ici qu'Yverté fut l'un des premiers écrivains à comprendre, dès les années 90 et un peu avant, toute l'importance qu'allait avoir l'informatique avec ses capacités mais aussi ses dangers. Pendant plus de 40 ans, Yverté a exercé la profession de médecin de campagne dans un village du Comminges au pied des Pyrénées. Grand marcheur et alpiniste chevronné, il avait gravi les pentes des plus hauts massifs de la planète, des Andes à l'Himalaya. Mais poète véritable humaniste, il était aussi un homme passionné, très attentif aux autres, à la fois dans sa vie et dans ses écrits. Son lyrisme était toujours tourné vers le quotidien des gens ordinaires. Comme la quasi-totalité de son œuvre est introuvable, on peut se demander où se procurer les livres de Diverté. Chez Rougerie, sûrement, en leur demandant aux éditions Rougerie, mais essentiellement sur les sites de livres d'occasion sur Internet, AB Books, Livres Rare Book, par exemple. En regrettant, bien entendu, qu'aucun éditeur n'ait pris conscience de la formidable actualité de cette œuvre visionnaire. Voilà pour Iverté. Et poète vivante, Cécile Guivarche. Écoute-moi bien, ami Georges, cette petite ira loin, car elle a un sacré tempérament. Eh oui, chère Yves, je n'ai pas oublié ta prédiction des années 2000 concernant Cécile Guivarche. Désormais, le fil rouge qui relie ces deux personnes me paraît évident. C'est celui de deux univers poétiques qui se retrouvent sur le terrain de la générosité et de l'ouverture aux autres. On y retrouve aussi le même élan vers ce qui mérite d'être mis en lumière, avec cette patiente assurance qui permet à une œuvre de se construire pas à pas. Les proses et les poèmes de Cécile Guivarche agissent comme des sondes qui plongent dans le riche et mystérieux terreau des racines familiales. C'est un parcours où les souvenirs enfantins se mêlent aux interrogations adolescentes, parcours parsemé d'épreuves et d'énigmes, mais au-delà duquel se construit patiemment la singularité d'une existence. Outre son œuvre écrite, forte déjà d'une quinzaine de titres, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que le nom de Cécile Guivarche restera fermement associé à son site Terre à Ciel qu'elle avait créé avec quelques amis en 2005. Ce site est un outil de première grandeur, Terre à Ciel, à la fois revue écran, lieu d'information multipolaire, relais poétique, au point qu'il est l'un des lieux les plus visités de la toile poétique. Voilà. On trouvera les recueils de Cécile Guivarche dans les catalogues des éditions Henri, La tête à l'envers, Les lieux dits, L'arbre à parole ou Les carnets du dessert de lune. Voilà, on va terminer avec une parenthèse de Robert Sabatier qui définissait ainsi le poète ou la poète, poète défricheur et déchiffreur. Thank you.
Et oui, je suppose que vous l'aurez reconnu, la trompette magique de Miles Davis, My Old Flame. Tout aussi magique, Jean-Claude Touzeil, poète et chroniqueur sur la route inconnue depuis déjà de nombreuses années. Jean-Claude va nous donner, je le suppose du moins, quelques conseils de lecture pour finir. Quant à moi, je vous embrasse sur les deux joues. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rentiel et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine sur la route inconnue.
Bonjour tout le monde. Alors, on reprend avec un certain nombre de haïkus que j'ai choisis, qui sont presque tous sur le thème du printemps, puisque c'est le moment. Donc ne soyez pas surpris, je vais les lire deux fois comme c'est l'usage avec les haïkus. On démarre. Le printemps est là, j'entends le bruit des vagues de dessous mon bureau. Le printemps est là, j'entends le bruit des vagues de dessous mon bureau. Haïku de Awano Saeho. Matin de printemps, mon ombre aussi déborde de vie. Matin de printemps, mon ombre aussi déborde de vie. Haïku de Issa. Troisième, au printemps, les grenouilles chantent. En été, elles aboient. Au printemps, les grenouilles chantent. En été, elles aboient. Ryokan. Jour de printemps, moineau dans le jardin, se baignant dans le sable. Jour de printemps, moineau dans le jardin, se baignant dans le sable. Également de Ryokan. Star déchue, la cabine téléphonique héberge un moineau. Christophe Jubien. Star déchu, la cabine téléphonique héberge un moineau. Christophe Jubien. De quel arbre en fleurs, je ne sais, mais quel parfum. De quel arbre en fleurs, je ne sais, mais quel parfum. Bachot. Au ciel s'en vont les pétales de cerisier d'une seule envolée. Au ciel s'en vont les pétales de cerisier d'une seule envolée. Takano. Que n'ai-je un pinceau pour peindre les fleurs du prunier avec leur parfum? Que n'ai-je un pinceau pour peindre les fleurs du prunier avec leur parfum? Shoda. Sur le chemin de la fillette, devant, derrière, des papillons volent. Sur le chemin de la fillette, devant, derrière, des papillons volent. Shio Ni. Ivre, comme fou, les peupliers applaudissent le vent d'orage. Ivre, comme fou, les peupliers applaudissent le vent d'orage. C'est le dernier haïku de Miyo Ren, R-E-N. Et puis pour me joindre au groupe, je vous propose 3-4 haïku Touzeil. Ça donne ceci. De toute beauté, ces chênes au milieu du champ, déclarés coupables. De toute beauté, ces chênes au milieu du champ, déclarés coupables. À la belle étoile, il dort comme un bienheureux, le jardin, la nuit. À la belle étoile, il dort comme un bienheureux, le jardin, la nuit. Brindille de frêne au bout du bec du corbeau. Le bâtiment va. un lit de frêne au bout du bec du corbeau, le bâtiment va. Par-dessus la haie, des îles de perce-neige en apesanteur. Par-dessus la haie, des îles de perce-neige en apesanteur. Pour terminer, cette coccinelle se croit-elle au bout du monde, au bout de mon doigt? Cette coccinelle se croit-elle au bout du monde, au bout de mon doigt? Je vous souhaite un bon printemps, à la prochaine!
Gainsbourg et son Gainsborough ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année, et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69
et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69
été un petit animal que ça.
précieux enfant que je n'ai connu qu'un instant. Tu étais la condition